RMC.
Forcément qu'il y aura des priorités, mais ça ne veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi.
Football Show.
Vous comprenez ce que je veux dire?
Je vous entends parler, je vous entends écrire.
C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Gilbert Brébois.
Messieurs, vous les avez demandé et ils sont là pour vous. Et oui, parce que c'est vrai qu'on est soumis, Daniel, Jérôme et moi, à une pression terrible. Si tu fais trois jours sans drôle de l'âme, c'est ouais, ils sont où, pourquoi, comment, gna gna gna. Et on veut du Simone et Rovera, on veut du Lorto.
Et après, quand ils les voient à la télé, ils disent oh ouais, non, mais on les a assez vus, quoi. Donc,
c'est ça, Daniel Ariolo est là, Jérôme Bretagne est là. Accueillons, s'il vous plaît, Simone et Rovera. Simone, oh, bonsoir. Voilà,
quelle barbe. Ciao, Sarah, bonsoir.
Quelle belle barbe.
Merci.
Tu veux la ce petit secret,
hein?
Qu'est-ce qui est tombé là?
Ah, je sais pas, je suis en train de...
D'accord, tout cassé, Jérôme. David Lorto est là également. David, bonsoir.
Allô, Freund. Salut Gilbert, salut à tous.
Mais qu'est-ce que c'est que ce t-shirt?
C'est pas un t-shirt,
c'est polo.
Ah, hey, le polo sur neige, messieurs.
Le polo sur neige à Courchevel.
Oh, c'est
monsieur
chose.
Fait du polo.
Non, oh, non,
du polo sur neige à Courchevel.
J'ai eu la chance d'être acheté par des poloïstes qui m'ont fait faire un article dans un journal. C'est vieux. Oh là, ça a 10 ans. Tu vois, c'est, voilà.
Ah, il est grand en plus.
Attention, nous avons également en direct de Madrid, bien sûr, le taulier, El Taulier, Fred Hermel. Fredo, bonsoir.
10 ans le polo.
Ouais.
Dis donc.
Oh, la regarde la télé comme ça, tu verras quelle tête il a, Fred.
Et à Londres, il est là lui aussi, Julien Laurence. Bonsoir.
Salut à tous.
Alors le principe est simple, dans cette foire aux questions, vous avez l'habitude maintenant, vous qui nous écoutez, soit vous nous appelez au 32-16, soit vous envoyez vos questions sur le hashtag RMC Live et sur Direct Studio, bien sûr. Donc on vous attend, c'est vous qui faites le programme. Donc n'hésitez pas à le faire. Messieurs, tiens, est-ce que, avant qu'on prenne les premières questions, est-ce que Daniel et Jérôme, il y a deux, trois questions d'actu qui vous intéressent? Moi, j'aimerais juste quand même qu'on évacue rapidement les deux, trois infos du jour liées au foot européen. Les gars, notamment Iaquinta. Je voulais en parler tout à l'heure rapidement. Ah. Parce que Iaquinta, champion du monde quand même, mon petit Simonet, oui, a été condamné à 2 ans de prison ferme,
oui,
pour crime lié à la possession d'armes avec circonstances aggravantes mafieuses. Dans le même procès, son père a été condamné à 19 ans de prison pour lien avec la 'Ndrangheta, donc la mafia calabraise. Iaquinta a crié au scandale, il dit « Dans ma famille, on sait même pas ce que c'est que la 'Ndrangheta, ils ont ruiné ma vie pour rien, on me juge coupable parce que je suis calabré, c'est tout, mais j'ai quand même gagné la Coupe du Monde », dit Iaquinta.
Oui, ça, après, le fait d'avoir
gagné la Coupe du Monde,
ça veut rien dire. L'histoire est plutôt simple, ça se passe en 2012, quand Iaquinta, qui a une possession de 2 armes à feu, régulièrement, pratiquement,
régulièrement,
dénoncer, il a, parce qu'il dit qu'il aimait quand même tirer au polygone bon pour sport. Les deux armes sont prises par son père, qui est interdit d'utilisation d'armes à feu parce que il a des connaissances, voire des liens avec des mafieux, des personnages liés à la 'Ndrangheta, qui est la mafia calabraise. Et donc, en 2015, quand il y a l'ouverture du plus grand procès qui s'appelle Emilia de la 'Ndrangheta dans le nord d'Italie, les deux sont à l'intérieur de ces procès. Les pères de Iaquinta pour ses connaissances et ses fréquentations, et Iaquinta pour avoir fait utiliser ses armes à feu à son père qui est interdit. Et comme tu as dit, la sentence est tombée. Lui a été condamné coupable à 2 ans, mais lui n'a pas été considéré lié à l'association mafieuse.
Voilà pour cette première question qui n'a rien à voir avec le football dans l'absolu, mais bon, quand même, c'est
un mais c'est vrai destin... qu'il est sorti en criant je suis champion du monde, donc voilà. Sorti du tribunal en créant ça, c'est voilà. Un peu.
Donc. Une question de Tom pour Julien. Tottenham a joué contre City lundi, il rejoue mercredi, qui suit à l'extérieur en Coupe de la Ligue. Le calendrier anglais est dingue, est-ce que ça râle en Angleterre ou pas sur le calendrier?
Oh bah comme chaque année.
Ouais. Alors Pochettino a eu une petite phrase en disant c'est pas très cool de nous refaire jouer 2 jours après. C'est comme ça. C'est pour la télévision anglaise, pour Sky. Ouais, pour Sky, c'était le gros match du lundi soir sur la télé anglaise, à Wembley en plus. Donc, il n'avait pas pu jouer le dimanche puisqu'il y avait déjà le match de football américain qui était le dimanche. Sinon, je pense qu'ils auraient peut-être avancé le match au dimanche, mais là, c'était pas possible. Donc en fait t'as eu plein de problèmes qui se sont greffés sur ce match, puisque normalement ce match aurait dû jouer dans le nouveau stade de Tottenham, mais comme il est pas prêt, c'était pas possible, ils ont dû le garder à Wembley, mais Wembley avait déjà prévu le match de football américain le dimanche, mais ils pouvaient pas jouer dimanche, ils pouvaient jouer que le lundi, enfin c'était vraiment un micmac assez compliqué. Et effectivement après t'as le mardi et le mercredi pour les matchs de Coupe de la Ligue en milieu de semaine quand il y a pas la Ligue des Champions, puisqu'ils rejouent en Ligue des Champions la semaine prochaine. Donc c'est vraiment un calendrier de fou pour Tottenham, et cette fois ils ont bah voilà, c'était comme ça, ils ont rien pu faire quoi.
48 heures ça arriverait en France, ça, je te dis pas le scandale. Bon.
Ah bah, c'est déjà arrivé, mais.
Ouais. Enchaînons. Tiens, j'ai une question pour Fred sur le hashtag DDDFAQ, parce qu'il est précis ce hashtag, hein, foire aux questions DDD. On nous demande.
Je peux la lire la question ? Alors, je lis la question. Qu'est-ce qui se serait passé si l'ex-ombre de Ronaldo avait mis la balle au fond du 2-2 ?
C'est pas ça la question. Tu te répètes, tu l'as posé 15 fois déjà celle-là. Alors moi je suis pour que les employés d'RMC Sport ne posent pas de questions, voilà.
Donc la question est la suivante, est-ce qu'au fond Lucas Hernandez n'est pas meilleur dans l'axe que sur un côté ?
Moi je trouve cette question très intelligente et je l'ai vu sur Twitter.
Pas comme l'autre alors.
Et en fait, non mais on va respecter nos auditeurs qui posent des questions intelligentes.
Même les autres.
T'as beau dire que ça fait 50 fois que je te la pose, la mienne j'ai toujours pas la réponse. Qu'est-ce qui se serait passé si cette balle du 2-2 absolument facile avait été mise au fond ?
La même chose que si Modric n'avait pas frappé le poteau 3 minutes avant.
Tu trouves que c'est, ça se compare?
Non, mais Daniel.
Ça se compare, là-bas.
Les gens attendent le truc.
Que même David Lorto aurait mis au fond.
Ouais, mais cache pas le plaisir. L'ex-ombre de Cristiano Ronaldo, très envie de cette foire aux questions. Alors, Lucas Hernandez, j'en ai parlé avec beaucoup de gens, notamment avec celui qui lui a proposé la première fois de jouer comme latéral, parce que Lucas Hernandez est avant tout un défenseur central,
oui,
qui
monsieur.
A les qualités de défenseur central, et c'est quand il était quand il avait une quinzaine d'années que dans les équipes de jeunes de l'Atlético, un formateur qui s'appelle Armando de la Morena lui a dit, si tu veux, tu es déjà très bon défenseur central, mais si tu veux être professionnel, avoir encore plus de chances d'être professionnel, essaie d'être un peu plus polyvalent, essaye-toi à gauche. Et c'est vrai que depuis, il a toujours alterné. Et d'ailleurs, le premier match qu'il a joué avec l'équipe première, c'était contre le Real en coupe, et il avait pris Cristiano Ronaldo comme latéral. Donc il avait en face Cristiano Ronaldo. Mais quand tu parles à la plupart des spécialistes en Espagne, etc., ils te disent tous que Lucas Hernandez est encore meilleur défenseur central que latéral. Et moi, sur ce que j'ai vu par moment, mais il est impressionnant, notamment dans l'impact physique, il a peur de rien. Et donc, moi, je pense qu'il est encore meilleur défenseur central que latéral.
J'enchaîne avec Lorto. Vous pouvez réagir hein, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que disent nos drôles de dames, hein, Jérôme et Daniel, bien sûr. Thomas demande à Lorto, la presse allemande est-elle surprise du début de championnat étonnant de Mönchengladbach et de Pléa qui cartonne en Allemagne.
Oui, mais cette question est un peu datée déjà, Gilbert, puisque je vais y revenir sur le fond, mais il se trouve que le dernier match, Mönchengladbach a explosé à domicile, ouais. Pulvérisé par Bayer Leverkusen qui est en train de se réveiller d'une façon incroyable. 5-0, c'était ouais. Le match de coupe là de ce milieu de semaine. Avant cela, et avant que Pléa ne soit d'ailleurs, je crois, légèrement blessé, effectivement...
Gladbach reste troisième encore.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Sur le championnat, ils font partie des 2-3 très belles surprises, demi-surprises, on va dire, de ce début de saison. Pléa y est évidemment pour quelque chose. Dieter Hecking, l'entraîneur aussi, y est clairement pour quelque chose. Il y a dans cette équipe de Mönchengladbach, effectivement, un bel équilibre, avec des joueurs assez cotés, notamment les internationaux suisses en défense, parmi d'autres. Et devant, ça marche bien avec Pléa, avec Lars Stindl qui était proche de disputer la Coupe du Monde, qui s'est blessé avant ce 9,5 là formidable. Et en plus
qui m'a parlé de l'impression de Pléa à Gladbach, qui a été impressionné par le club, les structures.
Oui, bah après il y a tout le tout poids d'histoire, les années 70,
il a découvert
tout ça.
Un nouveau monde, il s'éclate,
la ville.
Il
est un classique quoi.
Comme la plupart des mecs
et la ville c'est mieux qu'à Nice ou
je suis pas sûr par contre. Et en plus il y a Raphaël qui est le brésilien de service là-bas qui rend depuis des années justement des bons services, qui a 33 ans, qui revient là, et il vient de rentrer je crois lors du dernier match. Pléa est absent, on va voir si ça pèse, mais ça risque d'être compliqué quand même.
L'expression brésilien de service à notre époque, faut se méfier de ça.
Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'en Allemagne, t'as quand même souvent un brésilien dans les clubs. Ouais, t'as quand même souvent un brésilien dans les clubs, y compris dans les clubs de entre guillemets de seconde zone, et c'est souvent de belles trouvailles, mais c'est pas non plus toujours des Ronaldo quoi.
Rafi Touche me demande, enfin demande à Fred, il dit donc Ramos, il se prend pour Florentino. Donc après s'être opposé de façon à peine masquée à l'arrivée de Conte, maintenant il like des posts Instagram acerbes avec ses coéquipiers. Le rôle d'un capitaine n'est-il pas d'être un peu plus discret et de faire le boulot en interne plutôt que de le rendre public?
C'est vrai que Ramos est un très bon capitaine, mais il faut quand même reconnaître que depuis que Cristiano Ronaldo est parti, il veut aussi, bon, il prend les pénaltys, il prend les coups francs, il est un petit peu omniprésent. Je vais pas dire qu'il a le melon, parce qu'en plus dans le vestiaire c'est vraiment un bon mec, mais c'est vrai qu'il voilà, il a la légitimité d'un mec qui est là depuis plus de 10 ans. Oui, il a pas tort, notre auditeur, mais il y a un moment où le président, il va le contrôler, parce que le président a une légitimité encore plus grande puisqu'il est élu par les socios. Mais c'est une réflexion assez intéressante de notre auditeur.
Comment il s'appelait déjà?
Raspitouche.
Et il ajoute en PS 2 points, est-ce qu'à Noël, le Real compte prendre un avant-centre?
Ne transforme pas messages des auditeurs.
Sur Twitter, maintenant, on peut faire des questions plus longues, effectivement, que par le passé. Donc, c'est ça. C'est
pas du tout bête, toi. Sinon, moi, je vais te refiler, le Daniel, tu vois, parce que le Morbac, quand il se met sur quelqu'un, je peux te dire que...
Oui, pardon.
Fais gaffe, je te le renvoie.
C'est ça, excuse-moi, mais sur toi, j'ai duré bien plus longtemps qu'un Morbac, si tu vas par là.
Un Morbac, on devrait pas traiter avec les...
Mister Jim a une question pour Julien Laurence.
Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut deviner en fonction du surnom pour qui est la question.
Mister Jim, que Julien Laurence.
Les deux derniers, j'avais deviné. Rafi Touche pour Fred et Julien Jim pour Julien Laurence.
Mister Jim.
Alors, à partir des prochains, on essaie de deviner pour
d'accord,
qui
c'est. D'accord, allez. Abuse-toi avec ça, comme ça tu laisseras, ça te laissera tranquille.
Salah au Real en janvier, possible ou pas?
Salah. Impossible. Impossible. Oui, ou alors Emiliano Sala peut-être, mais le mot Sala de Liverpool, c'est impossible en janvier au Real Madrid.
Ah, je croyais Emiliano Sala au Real pour remplacer Benzema. Non. C'est faisable.
Mais il peut pas jouer la Ligue des Champions.
Très bien, comme question... ça on évacue le truc.
Simplement parce que par rapport à ça, tout joueur qui a disputé avec des champions ne peut pas venir au Real au mois de janvier. Ils vont pas prendre un mec qui peut pas jouer. Ça
n'a pas changé.
Il a changé. Ouais.
Fred, mets-toi la page.
Excuse-moi. Non, mais le de la Ligue des Champions. Oui, un mec qui a joué la phase de groupe.
En fait, maintenant, la phase de groupe, tu peux la jouer avec un club et tu peux faire la phase finale avec un autre.
C'est une magnifique chose.
Je dois reconnaître mon erreur. Je n'étais pas au courant de cette règle.
Ouais, ça a changé cette année.
Voilà. Donc ça ouvre les portes, comme je disais, un nouvel avant-centre.
Mais
ce sera pas Mo Salah.
Que ça soit Mo Salah ou Emiliano Salah, de toute façon, ils marqueront des buts, au Real.
Attention, Tom a une question pour...
Simonet, non?
Exactement. Ouais. Et alors, attention, il y a une question pour Simonet qui, en fait, vous concerne un peu tous, mais celle-là me plaît bien. Parce que ça revient souvent dans les discussions qu'on a avec nos auditeurs, nos téléspectateurs, nos internautes. Simonet, est-ce que dans l'after, on vous demande explicitement d'être chauvin pour le championnat que vous suivez, ou bien vous le faites naturellement?
Non, c'est naturel.
Naturel. Personne ne me demande.
Non, toi, t'es chauvin. Fred n'est pas chauvin.
Non.
Moi, je suis le seul. Fred, non, il n'y a que le Real. Sinon, le reste,
mais je suis le seul qui est né dans les pays concernés, donc.
Voilà. Vous avez une tendance à boutiquer.
Oh, c'est vrai que c'est.
Même ma boutique est très bonne.
Julien, on peut pas savoir, il est encore frais.
Non, alors.
Ouais. On peut pas
savoir. Il a côté vierge encore.
Sur le bilan Ligue des Champions et Ligue Europa, cette année, pour l'instant, ce sont les clubs italiens qui ont, il me semble, le meilleur bilan comptable.
Ça compte pour rien du tout, oui.
Les drôles de dames ne reçoivent absolument aucune consigne pour être chauvin. Elles sont juste elles-mêmes.
Mais oui.
Tout simplement.
Non, le pire. Voilà. Moi, si je peux mettre un pire, c'est celui qui est à ma droite.
Ouais. C'est l'ortho.
C'est incroyable.
Ouais.
Ah oui. Incroyable. Rappelle-toi des chapeaux.
Surtout sur le Fortuna Düsseldorf.
Juste sur les chapeaux.
Oui, alors,
déjà. Tout le chapeau numéro 1 d'où tu nous as mis les Allemands.
Thibaut Werner. L'héritage américain, Coupe du Monde.
Müller.
Heureusement.
Il t'a pas dit forcément que c'était cette Coupe du Monde-là.
Heureusement.
À Müller, c'était Gerd Müller.
Mais vous êtes deux à avoir.
Jérôme dit ça, et le pire, c'est qu'on a les preuves, écoutez. Timo Werner. David.
Je vous propose de regarder la Coupe du Monde.
Pour cette remarque. Oui, alors la suivante.
Ah, il y avait les vouvouzelas là.
Bravo.
Oui, bon, ok, bah, oui, c'est bon.
Quand même les chapeaux, là.
Gilbert, le système de jeu ne lui convenait pas.
C'est vrai, il y a longtemps qu'on n'a pas fait les chapeaux.
Ah, mais c'est pour le ballon d'or.
Alors, attendez, parce que là, ouais. j'en ai mille qui tombent en même temps. Tiens, les questions sur. Moi, je veux pas qu'on fasse que les questions au mercato. Alors, est-ce qu'on dit, est-ce que Rames peut partir? Ouais, est-ce que machin peut aller à truc? Non, c'est pas le but.
Rames, ça reste quand même une question importante mercato, ouais. Parce que sa situation est quand même compliquée au Bayern.
Ouais, c'est lui qui la complique. Ouais. Son agent aussi.
Alors, qu'est-ce que t'en dis, du coup?
Non, sur Rames, on se retrouve dans les logiques habituelles avec le Bayern. C'est-à-dire que, il n'y aura pas de départ cet hiver, sauf. Puisque c'est un enfant gâté quand même qui n'est jamais content lorsqu'il n'est pas titulaire, il faut bien le préciser. Sauf si on se retrouve dans une situation complètement bloquée entre l'entraîneur, le joueur, le vestiaire.
Mais là, etc. Il en est où, là, au niveau de son temps de jeu?
Bah, il en est où?
C'est cut quasi.
Avec Kovac, en fait, tout le monde joue. Et c'est justement la difficulté, parce qu'aujourd'hui dans le vestiaire, c'est un peu un problème du Bayern. Tu me donnes quelques secondes, Gilbert, pour développer l'atmosphère, l'ambiance au Bayern n'est pas optimale. Aussi parce que pour certains, ils s'attendaient à jouer tout le temps, ils s'attendaient, etc. Et avec Kovac, ça ne marche pas comme ça. Voilà. Rames fait partie de ces joueurs insatisfaits. Il y en a d'autres. Pour certains, c'est des petits caprices sans lendemain. Comme Ribéry, comme Robben, qui sont mécontents lorsqu'ils sortent.
Mais eux, ils sont
mieux
déjà.
Et eux, ils ont.
Ils peuvent le comprendre.
Surtout, ils rappellent régulièrement leur amour pour ce club, même si ce mot est peut-être un peu fort. Pour Rames, c'est un peu compliqué parce que il a un talent qui est au-dessus de la moyenne, même au Bayern. Sauf que dès qu'il n'est pas titulaire, c'est compliqué. Il y a l'agent qui s'y met aussi. Donc moi, je serais pas catégorique. Alors que le Bayern veut le conserver à long terme, je serais pas catégorique sur le fait qu'il reste à long terme. En revanche, je crois pas du tout à un départ cet hiver.
Mais si tu me dis que le Bayern veut le garder à long terme, ils prennent en compte sa personnalité, son caractère, et qu'aujourd'hui ça les dérange pas plus que ça que le mec fasse la gueule quand il joue
tant
pas.
Tant que c'est gérable. En plus, Thiago vient de se blesser. Alors c'est pour quelques semaines seulement, mais Thiago vient de se blesser, qui était le meilleur joueur du club actuellement. Il va y avoir besoin.
Il a
de
fait combien de matchs là depuis le début à peu près?
Ah, je peux pas te dire exactement.
Non, mais
j'ai pas en tête. Mais
quoi, les trois quarts.
Il joue un match sur deux. Hein.
Ah, la moitié.
Après, il y a cette. J'aimerais le voir ailleurs qu'au Bayern, Rames.
J'aimerais le voir.
Ou au Real, ça marche pas.
Le Bayern.
Ça marche pas au Real, ça marche pas au Bayern.
Oui, je suis d'accord, Fred.
Ça commence à.
Ah, mais hein, c'est un beau joueur, Fred. Franchement,
c'est un joueur sublime.
C'est un joueur extraordinaire.
Extraordinaire. Sauf qu'il est pas pro.
Ah oui, ça c'est problématique. Je suis d'accord avec toi.
C'est vrai, mais j'aime tellement ce joueur que j'arrive pas.
Moi, je peux même vous dire une chose. Rames a été pendant les. Il est resté avec Zidane un an et demi. Il l'a été pendant un an et demi le joueur qui s'entraînait le moins bien des 24-25 joueurs de l'effectif du Real Madrid.
Il sortait plus ou moins que Guti, grande époque.
Ah, c'est peut-être pareil. Hein. Mais moi, il y a des endroits où je suis allé. Quand vous arrêtez, Rames, il vient de partir.
Mais quand tu dis il s'entraînait moins bien, c'est parce qu'il était fatigué par rapport à ses soirées nocturnes ou
manque d'implication.
D'accord, ouais,
ça reste vrai.
Ouais, non, mais des entraînements qui sont pas de haut niveau.
Mais
et moi, je sais que Zidane ne pouvait pas mettre un type que les autres ne voyaient pas.
Non, mais c'est. Mais je suis d'accord.
Sinon, ton vestiaire, il s'en va, quoi.
Non, mais c'est important ce que tu dis parce que là, ça montre que le mec. Alors nous, on le voit évoluer le week-end, et quand il est sur le terrain, c'est vrai qu'il y a toujours la sensation avec le ballon qui est bien supérieure à
beaucoup de joueurs. Et il est régulièrement décisif.
Mais en effet, si le mec n'arrive pas à être plus professionnel et à se faire mal par moment, il pourra pas faire une grande carrière.
Et c'est pas un hasard qu'il est proposé à la Juve par son agent qui est l'agent qui a fait venir Cancelo, Monsieur Cristiano. Donc,
messieurs, on passe à la suite, si vous le voulez bien. J'aimerais qu'on accueille Yvan au 32-16. Yvan, bonsoir.
Oui, allô, bonjour.
C'est une question pour moi, ça.
Non, Yvan, c'est pour Julien Laurence.
Oh. Salut, voilà, Yvan. En fait, c'était... Salut, Jérôme. Salut, Daniel. Salut, tout le monde. Alors, c'était une question plus par rapport à Pogba, qui est à Manchester aujourd'hui. Je voulais savoir, en fait, selon votre avis, est-ce que c'est plus judicieux pour lui d'attendre que l'équipe, peut-être, progresse ou de partir la saison prochaine, compte tenu du chantier incroyable qu'il y a dans l'équipe de Manchester United?
Julien.
C'est une bonne question, hein, la question de l'avenir de Pogba. On en a parlé souvent dans l'émission. Le côté Manchester United est important parce que Pogba est un joueur indispensable pour eux à tous les niveaux. C'est l'outil marketing numéro un d'un club qui est le club numéro un dans le marketing dans le monde. Il est partout dans le programme, à toutes les pages, dans les billboards aux abords du stade, dans la ville, partout. Tout ce qu'ils font, tous les sponsors, tous les le joueur que les sponsors veulent, c'est Paul Pogba. Il est partout. Il est tellement important à ce niveau-là que le club ne peut pas le vendre, ne serait-ce que dans une optique commerciale déjà.
Mais
à la base.
Julien, après, est-ce qu'on peut s'arrêter deux secondes là-dessus? Mais sur ce qu'il fait sur le terrain aujourd'hui, ses performances sont parfois bonnes, parfois un peu moins. Pour le vrai supporter de Manchester United, il représente quoi aujourd'hui pour ce club et ses supporters qui connaissent l'histoire du club? Je sais pas moi, par rapport à aux joueurs d'il y a 15 ans, grande époque, les milieux de terrain, Paul Scholes et compagnie, sans parler de Ryan Giggs, Pogba, il est pas encore à ces niveaux-là quand même. Non Daniel. Mais comme il est aujourd'hui une montagne, un type dans les étoiles, comme dit du marketing, pour un vieux vrai supporter de Man United et pas pour un touriste, parce qu'il y en a beaucoup qui sont de passage à Old Trafford, il est quand même encore très loin du compte, non?
Ouais, il y a la frustration, je pense, beaucoup chez les supporters, parce que il est capable de beaucoup plus, il est capable de beaucoup mieux, et je pense qu'il y a encore cette idée de, il est sur courant alternatif, il va être très très bon un jour, beaucoup moins bon la semaine d'après.
C'est ça.
Et à United, ils ont tellement été habitués à ce que leur star performe chaque match, qu'il soit là à chaque match, qu'il soit décisif, qu'il soit bon, etc., qu'il y a, je pense, un sentiment de frustration. Après, cette saison, c'est une saison moyenne pour l'instant, mais c'est leur meilleur joueur. Il n'y a même pas photo, il n'y a pas débat.
Bien sûr, ça c'est vrai, ouais.
Dans une situation compliquée, ça reste quand même leur meilleur joueur. Après, est-ce qu'avec un autre entraîneur, dans un environnement un peu meilleur, il pourrait donner plus? Sûrement, il a sûrement beaucoup plus à apporter, il doit apporter beaucoup plus encore. Il est encore jeune, et moi je pense qu'ils peuvent pas s'en séparer. Après, que lui force un départ, qu'il ait vraiment envie de partir, qu'il veuille découvrir autre chose, ça c'est une autre question, et peut-être qu'un jour il aimera aller au Real ou au Barça.
Il revient à Manchester, donc non, mais c'est pas juste parce que
je pense qu'il est vraiment attaché au club. Il est attaché au club, aux supporters et à la ville, vraiment.
Moi,
c'est pour ça que je pense qu'il va continuer encore un peu.
Moi j'y vais régulièrement, ça m'arrive d'échanger avec lui, avec d'autres, et même les gens, et quand tu parlais de cote, bien sûr que la cote elle est énorme, quand il rentre sur le terrain, quand il touche le ballon, les gens, il y a une réaction qui est pas la même que quand c'est Lukaku, Fellaini qui touche le ballon. Donc bien sûr qu'il a une énorme cote, qu'il y a une énorme attente sur lui, que souvent il fait des bonnes choses, vraiment. Hein, moi, je suis rarement déçu quand je fais un match de Manchester United des performances de Paul Pogba. Après. Là, pour rentrer un peu dans le dur, en ce moment, ça fait 3 semaines, 1 mois, il est peut-être décisif avec son club, mais il est quand même moins performant. Il est fatigué, tu le sens qu'il est pas à son meilleur niveau physique, et que Paul, plus que les autres encore, si physiquement il est pas au mieux, eh ben il peut pas exceller sur le terrain.
Merci.
Après, juste question sur le long terme là-bas.
Moi, je pense qu'il aime ce club. Le problème, c'est la relation.
Contre un changement d'entraîneur, quoi, pour le coup.
La relation avec Mourinho, c'est que si Mourinho continue, je vois pas continuer l'année prochaine. Là, changer là au mercato d'hiver, on sait que c'est souvent un mercato d'appoint. Je suis pas sûr qu'une telle somme soit mise sur la table pour Paul Pogba pour renforcer un grand d'Europe, et qu'ils attendront certainement le mois de juin, sachant qu'il n'y a pas de compétition internationale.
Dans quelques instants, on est de retour pour parler notamment de Marotta qui quitte la Juve. Il y a des questions là-dessus, Simonet, et puis tout le reste de l'actu européenne, bien sûr. La foire aux questions, drôle de l'âme, c'est tout de suite au 32-16. J'ai également des questions sur Lampard avec Derby County. Comment ça marche? Vous saurez tout avec Julien dans quelques instants. Bref, on vous attend jusqu'à minuit. La foire aux questions, les drôles de l'âme, c'est avec vous dans l'after.
RMC Football Show, l'After Foot, Gilbert Bribois.
Daniel Riolo, Jérôme Bretel est là, les drôles de l'âme, Simonet Rovera, David Lorto, Julien Laurence, Fred Hermel. Vos questions, le 32-16 est ouvert. J'ai Karim, par exemple, qui nous attend. J'ai Riles, je pense qu'on dit comme ça, qui veut parler de Lampard dans quelques instants. Il y a une petite question pour Simonet là tout de suite. J'ai Fred Nice qui nous dit, mais c'est quoi cette équipe de Spal?
C'est l'équipe des Ferrara qui avait bien commencé la saison. C'est une histoire plutôt intéressante, c'est-à-dire la Spal était en 5e division et elle a fait des montées consécutives jusqu'en Serie A. Elle a mis 5 ans pour arriver en Serie A. Et c'est une équipe historique. C'était l'équipe dans les années 60 de Fabio Capello, où a débuté Fabio Capello. Donc équipe historique qui a retrouvé la Serie A, je pense, après 46 ans de retard. Donc
c'était une vraie retrouvaille la saison dernière, je vous le maintiens, c'est une belle équipe, sympa.
Bon, très bien, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir en Serie A puisqu'ils sont remontés
pour la première fois. Et Spal, c'est Società Polisportiva Ars et Labor, c'est quatre lettres, c'est un acronyme.
C'est latin, non, non.
Ouais.
Ouais, ouais. Ouais. Ça me rappelle des souvenirs. Non, mais c'est vrai.
Raïles, bonsoir.
Bonsoir.
On dit bien Raïles. Bonsoir tout le monde. Bon, j'ai bien prononcé ton nom ou pas?
Ouais, c'est ça, Raïles.
Alors, tu voulais parler de Lampard?
Oui, justement, c'est pour parler du retour justement de Lampard à Stamford Bridge. Donc, c'était avant-hier, je crois, donc en League Cup.
Ouais, Coupe de la Ligue anglaise.
Voilà, et du coup, c'était pour parler justement de ce joueur-là, parce qu'en fait, généralement, j'ai l'impression qu'on parle souvent de Gerrard, de Scholes, de Pirlo, etc. Et on souligne pas justement assez la carrière de ce joueur-là. Donc, j'ai regardé les stats, en fait, 211 buts en 650 matchs à Chelsea, donc le meilleur buteur du club. On se rappelle sa Ligue des Champions, etc., des matchs qui, enfin, sa frappe de balle, etc. Et du coup, c'était pour parler justement de lui et demander l'avis de Jérôme, de Daniel et de Julien aussi, et tout le monde, justement, de ce qu'il pensait de la carrière de ce mec-là.
La carrière de joueur ou d'entraîneur?
De joueur.
Bah, de joueur, je pense que mieux vaut qu'on parle de la carrière d'entraîneur, si tu permets, parce que
bien sûr.
C'est ce qui nous intéresse maintenant. Est-ce que ça fonctionne pour Lampard à Derby County, Julien?
Ouais, ça fonctionne plutôt bien pour l'instant pour lui, hein. Donc en deuxième division, en championship, ils sont sixième, qui est pour l'instant en barrage pour après la montée, s'ils restaient dans les six premiers. Mais ils sont qu'à 4 points, je crois, du premier Sheffield United. Donc c'est pour une première saison en tant qu'entraîneur, parce que c'est un peu le Thierry Henry de l'Angleterre, un peu comme Steven Gerrard. Sauf que lui, c'est encore pire, parce que Steven Gerrard avait pris les jeunes à Liverpool. Lampard, lui, il est passé de consultant à la télévision à entraîneur de Derby County directement. Donc le saut a été encore plus impressionnant qu'un Gerrard, qu'un Thierry Henry, etc. Et il fait du bon travail, il joue très très bien au ballon. Pour ceux qui ont regardé le match contre Chelsea, c'était vraiment plutôt beau à voir. Ils ont battu Manchester United dans le tour précédent en Coupe de la Ligue, où ils sont allés à Old Trafford, disons. Au tir au but, mais avant ça, ils ont imposé leur jeu, ils ont marqué, ils ont des jeunes joueurs, Harry Wilson qui est prêté par Liverpool, Mason Mount qui est prêté par Chelsea aussi, qui sont vraiment très intéressants, qui jouent beaucoup au ballon, et Lampard, c'était un tel grand joueur et un tel grand monsieur qu'il y avait aucun doute en Angleterre sur le fait qu'il ferait un très bon entraîneur, qu'il le fasse si vite. Et pour l'instant, c'est vrai que c'est un très très bon début, ça a peut-être surpris des gens, mais à un moment, je pense que chez les Anglais, il y avait aucun doute sur le fait qu'il était tellement intelligent en tant que joueur, il était tellement pédagogue, il était tellement à l'aise avec les jeunes joueurs, avec les plus anciens, il était à l'aise avec la presse, il était à l'aise avec ses entraîneurs, il a appris des meilleurs, de Carlo Ancelotti, de José Mourinho, de Gus Hiddink, de tout ça, que il avait toute l'ADN pour devenir un grand entraîneur, et pour l'instant, il est en train de montrer qu'il est vraiment sur le bon chemin.
Voilà pour Lampard. On a rajouté
messieurs. Non, genre un mec, s'il a envie de se donner le mal pour être un bon entraîneur, ouais, vu exactement. Ceux qu'il a fréquenté, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Il a fréquenté le gratin.
Repartons en Espagne, on me demande des nouvelles de Lo Celso, mon petit
Fred,
avec le Betis.
Pas mal du tout. Vraiment. Une intégration assez...
Bon, normal, c'est un football pour lui, hein.
Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bon. L'Espagne, c'est un football pour les techniciens. Et puis c'est un pays de sa langue. Il y a que des bons avis en Espagne sur lui. Il est titulaire. Franchement, il y a vraiment aucun problème pour lui, quoi. Vraiment, je vais même vous dire ce qu'on dit en Espagne. Faut pas qu'il se fâche, hein, les supporters, hein. En Espagne, on se dit, mais pourquoi le PSG l'a vendu?
En fait, tout le monde se dit ça.
Non, mais t'en fais pas, il n'y a pas qu'en Espagne.
T'es pas les seuls, t'es pas le seul à dire
parce
ça.
Parce que c'est quand même un
question,
type
on aimerait bien que tu répondes.
Par contre, titulaire, dans une belle équipe, très technique, peut-être l'un des plus beaux footballs d'Espagne, avec le Barça, le Betis, c'est l'une des équipes qui joue le plus beau football, ultra technique, très très grosse projection vers l'avant, et Lo Celso est totalement intégré dans cette logique là, et sincèrement, ils se sont dit, mais attends, mais le PSG, ils ont tellement de problèmes au milieu de terrain, pourquoi ce mec là Mais la question que je me pose, est-ce que si je me souviens bien, il avait joué milieu récupérateur contre le Real l'an dernier.
Exactement. En sentinelle devant la défense.
Il n'avait pas été ridicule, si je me souviens bien.
Écoute, non, il avait eu du mal,
mais bon, pas plus ridicule que déjà, les autres.
Ouais, tout le monde lui avait mis.
Ouais, il avait fait la faute du penalty.
Il a fait la faute du penalty et tout le monde était tombé dessus.
Mais un peu domicile.
Non, mais Fred, de toute façon, c'est un bon joueur. C'est un championnat fait pour lui, sans aucun doute. Mais le championnat de France était aussi fait pour lui, le Paris Saint-Germain. Okay. Ils ont préféré s'en séparer. Tant pis pour eux. Ce que je veux dire, aujourd'hui, il fait le bonheur de Séville. Ça sera du bêtis Séville.
Dans le match face au Milan, c'était noté meilleur joueur.
Ouais, c'est ça. C'est ce que j'avais vu. C'est ce que j'avais vu en Italie. Ça avait fait un
talent. Ah oui, il était super. Match
sur le journal italien, il écrit, tu sens qu'il est un très, très excellent joueur de football dans la presse italienne.
C'est vrai que c'était un beau match, c'est cette victoire de. Bon,
c'est vrai qu'à Paris, il y a tellement de milieux que, bien sûr, fallait le laisser partir.
Il n'y avait pas besoin.
Ouais. Et moi, il y a une autre question, là, Fred, pour toi, là, Arnaud S. Là. Est-ce que Solari aura le cran de sortir Benzema et de mettre Mariano à sa place, surtout après la défaite 5-1 du Real contre Barcelone?
Bah, il faudrait attendre au moins 15 jours ou 3 semaines, puisque Mariano est blessé, donc voilà. Mais c'est vrai, je vous donne une information, Mariano est blessé, déchirure musculaire, donc repose la question dans 3 semaines, voilà.
Okay.
Donc,
et on repart en Allemagne.
Mais bien entendu que ça sera pas le cas, mais on va se donner une info, Mariano est blessé.
J'ai Payadin 34.
C'est une bonne question d'Arnaud.
Donc Payadin 34, je pense qu'on sait d'où il vient.
Payadin 34, je dirais que la question est pour Julien Laurence.
Eh ben non, elle est pour l'Orto.
Ah, merde.
Oui, parce que Payadin 34, elle concerne les anciens Montpellierains qui sont partis en Allemagne.
Ah. Ouais, mais alors là, ça doit exister. C'est, en fait, c'est une colle qui nous pose l'auditeur, là, qui me pose.
Roussillon et Moukielé.
Alors, Roussillon.
Ah oui.
Roussillon était bien.
J'ai eu des nouvelles de Roussillon avec Wolfsburg et de Moukielé avec Leipzig.
Roussillon bien intégré parce qu'il est régulièrement titularisé. Wolfsburg s'est donné une vraie bouffée d'air avec Bruno Labbadia, l'entraîneur. Ça va quand même nettement mieux que la saison dernière.
C'est pas Milan qui l'entraîne en Bundesliga, il a pas fait tous les clubs.
Bruno Labbadia.
Bah, tu t'en souviens comme joueur.
Tous les championnats.
Il jouait à Hambourg.
Tous les pays ont un mec comme ça qui a fait le tour de tous les clubs. Non, mais c'est vrai.
Il y en a plein.
Oui. Je m'en souviens à Hambourg, moi.
Ah, si, il a joué au Bayern. Je remettrai le maillot
d'ailleurs. En original, ça faisait Bruno Labbadia.
Non, ça va pas mal pour lui à Wolfsburg. Alors après, ils sont pas remontés quand même du creux. Il y a tout le contexte économique aussi. Ils sont pas remontés du creux. Ils avaient été champions en 2009 de mémoire. Ouais. 8 ou 9. Ils sont pas remontés du creux économique, mais ça va mieux quand même à Wolfsburg. Et lui participe de cette embellie sportive. Moukielé, c'est pas que c'est plus compliqué, mais c'est qu'il va falloir attendre un peu pour qu'il s'installe, pour qu'il ait davantage de temps de jeu, parce que pour l'instant la concurrence est féroce pour lui et il n'aura de temps de jeu que petit à petit. Parce que
en
pour
gros, Moukielé, tu l'as pas vu jouer, donc
si,
là,
mais
tu nous vends.
Si,
c'est pas grave. On l'a compris.
Le problème, c'est qu'il ne joue pas souvent parce que pour l'instant, son club, ça fonctionne assez bien aussi en Coupe d'Europe. D'ailleurs, je disais tout à l'heure que les Italiens ont le meilleur bilan comptable, mais ce sont les Allemands qui sont deuxièmes quand même actuellement au nombre de points pris en C1 et en C3.
Là, vous nous faites
ça
parler.
Il reste personne maintenant, ça.
Ouais. Oh, ok. J'arrête avec les stats.
On verra.
Je vous ai pas donné de chiffres, hein, vous avez remarqué. Mais Moukielé, non, il va falloir. Tu as raison, quelque part, Jérôme, il n'a pas encore beaucoup joué et il va falloir attendre cette saison que le club se disperse un peu ses forces.
Il est blessé
à la fois
ou
championnat.
Il joue plus du tout.
Non.
La Vogui.
Gilavogui. J'ai pas vu beaucoup cette saison.
Ah bah non, tu m'étonnes, il joue plus, mais il est blessé ou c'est parce qu'il est.
Non, Bruno
Labbadia.
Je crois pas qu'il soit blessé.
Il a fait un match. Lui, c'était un des hommes phares du Saint-Etienne de Galtier, une époque.
Oui.
On en parlait tout à l'heure dans la première.
Il a failli être un homme phare aussi, c'était à l'Atlético Madrid, hein, Fred.
Qui ça, pardon?
Gilavogui?
Ah, non, mais, je vois, il a fait une semaine d'entraînement.
C'est trop dur, il est revenu.
Ah, mais je l'aimais bien, alors dites pas de mal. Mais il a pas supporté le niveau de l'entraînement de Simon.
Ah, oui, visiblement, il supporte pas Wolfsburg non plus.
Ouais. Donc, Roussillon,
c'est
Corée,
le niveau technique
de Wolfsburg.
Il a du mal.
Simone, Marotta. Donc, la Juve a mis fin aujourd'hui au contrat de Marotta. Alors, Marotta, c'est un dirigeant historique de la Juve.
Directeur général.
Directeur général. Donc, c'est quand même un homme qui a participé au succès actuel de la Juve.
Oui.
Et là, tout à coup, ils disent, allez, terminé, tu peux t'en aller.
Ouais, c'était officialisé aujourd'hui. Marotta l'avait expliqué il y a quelques semaines que ça aurait pris fin son contrat. André Agnelli voulait du renouveau dans l'organigramme de la Juve. Donc, il y aura Fabio Paratici, actuel directeur sportif, qui va prendre sa place. Mais Marotta, avant la fin de cette année.
C'est important, Paratici.
Paratici, c'est l'homme qui a commencé comme scout. Et là, c'est
c'est un homme qui a
un rouage essentiel du football européen,
les clés du mercato de la Juve. Mamarotta va pas rester longtemps sans rien faire.
Je croyais qu'il voulait resserrer autour de la famille les Agnelli, tout ça.
Bah, Amarotta était en train de prendre beaucoup de d'importance, beaucoup de pouvoir. On l'a déjà vu dans les passés, la Juve, quand il y a quelqu'un qui est un peu dehors de la famille, c'était le cas avec Jean-Claude Blanc, qui était
c'est un
ministre
comme un moment,
délégué.
Michael Corleone a tout resserré à la fin, à la fin de l'épisode 1.
Oui.
Et, il a un peu
Il y a eu des procès à Piémonté, donc pour ça, pour parler de Marotta, il va signer un contrat de 3 ans avant la fin de, du 2018 avec l'Inter.
Et mais ça, moi, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle. C'est vrai qu'il y a le mercato des dirigeants, quoi, maintenant. Ça, c'est fantastique.
Alors, tu sais, le directeur sportif, ça, c'est important. Non, mais... Nous, chez nous, on n'a pas. C'est un vrai problème. Mais c'est
vrai,
c'est
vrai. Hein.
Que ce soit à l'époque Sabatini, Marotta maintenant.
C'est pas un rôle de directeur sportif qui prend.
Les anciens, un autre très connu.
Marco Branca, non?
Ouais, Branca.
À l'Inter.
Bien sûr, ouais.
Bah, t'avais Galliani qui était directeur général.
C'était le directeur historique de lui et Braida qui tenait Milan.
Marotta, à l'Inter, va être un rôle de dirigeant de très haut niveau, il va avoir un salaire de 3 millions par an.
Il y en a un autre
c'est
qui cherche qu'il est parti à Chelsea.
Il a plus de 60 balais, hein, Marotta. Hein,
oui, mais c'est un dirigeant à l'époque.
Mais là, t'as des dirigeants qui prennent des salaires de joueurs, en fait.
Oui.
Non, mais c'est
parce que
le sportif en Italie, c'est pas bon, mais je comprends pas que nous, chez nous, on n'a pas ça.
Avec Marotta, la Juve a presque doublé son bilan, son à niveau de gagne d'argent, avec les sponsors. C'est un travail extraordinaire qu'il a fait. Et c'est l'homme qui a fait venir gratuitement des joueurs comme Pogba. Il a payé 10 millions Tevez, fait venir gratuitement Pirlo, à 10 millions Vidal. C'est l'homme qui a fait qui a bâti, la Juve qui aujourd'hui est encore c'est que tiens
et voilà
et une petite dessous sur cette histoire apparemment même si tout le monde les nie mais en Italie tout le monde les dit Marotta ne voulait pas Cristiano et c'était Agnelli qui l'a imposé parce qu'il considérait que la Juve n'était pas prête économiquement pour faire un tel effort mais Agnelli voulait à tout prix relancer, donner un nouveau visage plus jeune et plus orienté marketing vers l'étranger à la Juve et quand Mendes a proposé Ronaldo, Marotta a dit on va y réfléchir etc. Agnelli voulait
de suite. Il a dit oui.
Et il a pas eu peur de l'histoire qui veut que ceux qui réussissent à la Juve à l'Inter ça marche pas.
3 millions par an par 3 ans
parce que c'est ils ont la poisse hein. Lippi qui va à l'Inter catastrophique à la Juve et gagne
mais
tout
mais je te répète 3 millions par an pour 3 ans
ils sont toujours fait chambrer par la Juve pour ça genre de quand ils viennent chez nous c'est des hommes chez vous c'est
Cannavaro qui part de l'Inter et va à la Juve mais après Peruzzi à l'Inter
qui mettait pas un pied dans l'autre il arrive à la Juve et il se transforme en bon
je crois que Fred voulait dire un truc là
non mais c'est par rapport moi la réflexion de Marotta sur Cristiano Ronaldo parce que quand tu dis bah quoi 100 millions c'est pas beaucoup. Enfin, le salaire derrière, c'est une fortune. Hein. C'est quoi, c'est 300 millions l'opération Cristiano Ronaldo hein.
La Juve paye 85 millions d'euros par an dans l'opération globale Cristiano.
Sûr.
Tiens, sur, dans quelques instants, on va parler de Chicharito avec Julien. Une question d'Alessandro. Mais juste avant, comme les drôles de l'âme sont là et qu'on a quand même une équipe de l'After composée de fins lignées, on a retrouvé. On vous a mis ça sur le compte Twitter de l'After.
Ouais, j'ai vu.
On a retrouvé quelques
c'est
photos.
Pas sympa, là.
Quelques photos de légende de notre drôle. Regardez Simone Rovera il y a quelques années. Il est
qu'est-ce
beau.
Que
hein,
alors, ça, mais...
Je vous le décris pour ceux qui nous écoutent sur RMC.
Je crois que c'était notre auditeur, ça.
Fine lunette, coupe en pétard. C'est beau. On en a une de Fred qui est belle aussi. Fred Hermel entouré de Florentino Pérez et Arrigo Sacchi. On reste au mieux.
Ça pose un homme quand même. Hein.
Ah, Fred, Fred est magnifique.
On dirait un contrôleur des impôts.
Ah ouais, exactement. Ouais,
d'ailleurs, j'ai regardé deux, trois trucs à toi, Daniel.
Dans le dîner de con.
Ouais, ouais.
Il y a un bibelot. C'était à l'époque des Galactiques, j'avais des cheveux.
Mais la plus belle, c'est l'orto. Attention, ça va tomber. Attention, 3, 2, 1, impact.
Eh oui.
Oh, putain.
L'orto, veste rouge avec la guitare.
Tu faisais de la musique chez Darty.
Ça, c'est un chanteur américain des années 50.
Ça, c'est une reproduction.
Les instruments chez Darty, c'est quoi cette veste
c'est
rouge,
une reproduction pour les gens cultivés qui nous regardent d'une pochette de 45 tours de Snowy White.
Ah bah tu vois, j'étais pas loin. Quand je dis, on a l'impression que t'es un groupe américain des années 50.
J'en joue, Ah ouais. Malheureusement de moins en moins parce que je suis obligé de fouiller mes dossiers pour RMC Sport, mais oui oui.
Je peux pas lire kicker et jeu de la guitare.
Il faut effacer un peu des photos sur.
Allez, dans quelques instants. Ouais, non, mais Julien, tout ça n'est pas très radiophonique.
On dira.
Mais vous allez
tout ça
sur
un jeune acteur.
Parce
que c'est un homme frais.
Mais non, mais Julien, on n'a pas encore les dossiers.
Julien, c'est un homme frais. Je ne l'ai encore jamais énervé.
Non.
Quand même très.
Non,
il m'a encore pas une seule fois envoyé au bois. Alors que Fred Hermel, il y va sans moi.
Ouais.
Dans quelques instants, nous
sommes de retour. Là, t'es drôle, tu vas quand tu veux.
Vos questions au drôle de l'âme, c'est tout de suite au 32-16, bien sûr, on vous attend.
RMC Football Show, l'afterfoot, Gilbert Bribois.
Jean Bretagne, Daniel Riolo, plus c'est drôle de l'âme. Juste avant de parler de Chicharito, je voulais quand même vous raconter ce qui se passe en Amérique du Sud. Finale de la Copa Libertadores, match aller la semaine prochaine, derby entre Boca Juniors et River Plate, Boca River, donc ce sera un truc incroyable. Les demi-finales étaient dingues aussi, je ne sais pas si vous avez suivi ça sur RMC Sport, notamment la nuit dernière. La nuit d'avant, vous aviez le River qui s'est qualifié grâce à la VAR, hein. Les joueurs de face à Grêmio, le club brésilien, les mecs de Grêmio n'ont pas du tout accepté la décision de l'arbitre, ils sont allés limite lui arracher le maillot, l'arrêter, enfin c'était terrible les images. On en parlera la semaine prochaine, même s'il y a de la Ligue des Champions, parce que ça va se jouer aux alentours d'une heure du matin, dans la nuit de mercredi à jeudi, vous allez pouvoir vivre ça, ça va. Et Gallardo, entraîneur de River, bref, c'est l'équivalent de la Ligue des Champions en Amérique du Sud.
Gallardo qui va dans le vestiaire avec un bonnet,
oui, qui était suspendu et qui a fait comme Mourinho à l'époque quand il était rentré dans la panière à linge. Là, Gallardo s'est incrusté dans le vestiaire à la mi-temps. Voilà, Boca Junior avec toujours Carlos Tevez, donc ce sera la semaine prochaine. Question d'Alessandro pour Julien. Comment se fait-il que Chicharito ait totalement perdu son football à West Ham? Sa Coupe du Monde n'était pourtant pas si mal.
Ouais, c'est vraiment triste, hein, la saison de Chicharito. Deux titularisations en championnat. Je crois qu'il a fait quatre bouts de match après. Zéro but, zéro passe des. Et il est transparent quand il joue. C'est, la saison dernière déjà avait été assez difficile. Je crois qu'il avait marqué que 8 buts en championnat. Il avait joué un peu plus. Mais on retrouvait pas le Chicharito, par exemple, du Bayer Leverkusen, qui avait été tellement bon dans la surface, exactement, dans la finition, etc. Parce qu'on, bien sûr, on connaissait en Angleterre celui qui avait sûrement, surtout été un super sub à Manchester United, qui était cet impact player, qui est entré en cours de jeu, qui marquait des buts, qui était efficace. Et au Real aussi. T'as raison, Fredo. Mais c'est vrai que là, à West Ham, il a beaucoup de mal. Alors peut-être que le fait que l'équipe, l'année dernière, ait eu beaucoup de mal, changement d'entraîneur, etc. Et cette saison, avec l'arrivée de Pellegrini, c'est vrai qu'il y avait un sens. Ben voilà, c'est un Sud-Américain, c'est une philosophie qui conviendra mieux à Chicharito, et finalement, il lui fait très peu confiance. C'est Arnautovic qui joue dans l'axe, et il y a très peu de temps de jeu pour Chicharito. Et quand il joue, comme j'ai dit tout à l'heure, il est pas très bon du tout.
Non, mais c'est surtout pour rebondir là-dessus. Déjà, il a pas la confiance de son entraîneur. Deuxièmement, quand il était un bon remplaçant, que ça soit au Real ou à Manchester United, il acceptait ce rôle-là et il se préparait en fonction pour apporter en cours de match. Il le faisait à merveille. Il a eu une embellie en Allemagne, parce que je pense que le championnat lui correspondait. Et puis en Allemagne, c'est pas le
T'as plus d'espace
pour les attaquants, en fait. Voilà. Donc, il y a plus de buts. Pas qu'il y a plus de buts, c'est qu'il se crée plus d'occasions. Donc, c'était un championnat pour lui.
Ce qui est fou, c'est que ces joueurs qu'on voit avec leur sélection à chaque fois excellents et qui n'arrivent pas à trouver le bon club, le bon championnat pour.
Mais je pense qu'il est. Moi, je pense qu'il est carbo, Daniel. C'est pas carbo. Carbo physiquement. Je pense qu'il est carbo. Il est carbo mentalement. C'est
que le mec. Match en Coupe du Monde.
Le mec. Les Sud-Américains, c'est pas la première fois qu'on va constater ça. C'est que quand ils mettent le maillot de la sélection, ils se transforment et là, c'est des guerriers, les mecs.
D'ailleurs, qui est devenu le défenseur colombien que la terre entière s'arrache.
Ah, celui du Barça.
Yerry Mina.
Il est à Everton, il est blessé, il a pas joué encore. Mais il va revenir de blessure.
Il y avait un moment que Naples avait planté 30 millions, 20 millions sur Edu Vargas. Ouais. Les Chiliens, il avait rien fait.
Pareil, ouais, non, mais c'est ça, c'est pour ça.
Il marquait toujours avec le Chili. Hein.
Mais là, c'est un problème de psychologique. Là, il prépare pas, c'est vrai. Là, il est à West Ham, il a un très bon salaire, il est dans un club
qui fait pas de bruit.
Il est à Londres.
Il m'a piqué ma meuf.
Il est à Londres. L'entraîneur veut pas le faire.
En plus, je lui pardonnerai jamais cette histoire-là.
Attends,
tu peux nous le rappeler? Tu as piqué ta meuf. Mais comment tu peux être sur un même dossier qu'un joueur de foot? C'est vrai. On peut
le raconter parce qu'ils sont plus ensemble, mais il y avait une journaliste de la télé qui me plaisait beaucoup et je l'avais invité à manger une raclette à la maison avec un bon Bordeaux et tout.
Ah ouais, et
Et en fait, ça marche pas, et j'apprends peu après qu'elle est avec Chicharito, donc voilà, ça m'a... Je l'avais raconté un jour pendant un match en disant, mais toi t'es nul, de toute façon, en plus tu m'as piqué ma meuf, je m'en fous que t'aies loupé le but.
Bon.
Mais c'est vrai en plus, voilà.
Les gars,
et j'ose pas raconter. Alors j'espère que j'ai... Allez, je vais la raconter. Le jour où j'apprends que cette fille est avec Chicharito, Carlo et Ancelotti est encore l'entraîneur du Real. Et je vais dîner avec Carlo et sa femme. Et dans le dîner comme ça, je dis, ah, tu sais pas, Chicharito, il m'a piqué ma meuf et tout, tu vois. Alors gros truc, il fait quoi? Il a fait ça? Il va plus jouer une seule minute, il me dit comme ça.
Surtout que c'était pas ta meuf, c'était la nana que tu envisageais.
Il fallait exagérer un petit peu, si tu lui avais raconté une histoire de la raclette,
tu t'aurais dit, t'es un loser.
Ce qui est très drôle dans cette histoire, c'est que 15 jours après, il y a la Ligue des Champions et Chicharito marque le but de la qualif face à l'Atlético de Madrid. Je sais pas si vous vous souvenez. Qualification pour la demi-finale.
Ouais.
Voilà, donc c'est voilà.
Bon, on va dire oui, vas-y.
Ben voilà,
c'est drôle.
Bon voilà, les gars, il nous reste 5 minutes. J'aimerais que vous répondiez tous à cette question de notre ami Football Expat qui suit l'after depuis des années et qui est toujours présent.
Ciao.
Et qui nous dit, j'aimerais que les drôles de dames se mouillent et que chacune nous donne son podium final de son championnat respectif.
C'est impossible avec les Coupes d'Europe, comment tu veux savoir?
Vous le faites dans le désordre.
Va falloir que vous mouillez, mais...
Podium désordre.
C'est impossible en Allemagne.
Démarre, toi, mon petit Lorto.
Il y en a deux qui vont s'imposer parce qu'ils sont au-dessus, c'est le Bayern et Dortmund. Après, derrière...
C'est quand même chez toi que c'est le moins risqué, quasiment. Donc,
Oui, mais
bah
c'est...
Vas-y, allez, chope-moi un troisième, vite fait, là.
Bah, le troisième actuel, Mönchengladbach. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils jouent pas la Coupe d'Europe et que justement ils vont pouvoir gérer leur saison de cette façon. Ça me paraît bien.
Allez.
Simonet?
Moi j'ai donc même les 4. Comme ça j'ai donc les 4 de la prochaine Ligue des Champions. Que c'est Inter, Juve et Naples et Milan.
Milan
devant la Roma?
Ouais. Milan aussi.
Et même devant la Lazio?
Ouais.
Moi
j'ai énorme confiance en Gattuso.
D'accord.
Ah ouais. Julien, ton podium?
C'est lui que c'est plus compliqué.
Moi, City, Liverpool et Chelsea. Et après, en revanche, si on cherche le quatrième, je pense que c'est un peu plus compliqué. Mais pour moi, les trois sont clairement au-dessus. Ils ont les trois meilleurs entraîneurs. Ils ont les trois meilleurs effectifs. Et il y aura pas de doute sur les trois premiers. Après, le quatrième, entre Arsenal, Tottenham et Simon Stavine, s'il arrive à revenir.
Tottenham est quand même au-dessus d'Arsenal en termes de collectif.
L'histoire du stade, tu sais, c'est compliqué. Je pense à gérer Tottenham, pour eux.
Tottenham, ils ont des soucis. C'est...
Non, mais je suis d'accord. C'est pas la même équipe que l'année dernière. Le stade.
Moi, je retourne d'Arsenal.
Non, mais ils vont arriver dans leur stade. Et puis Tottenham contre les gros, ils ont du mal de toute façon. Mais les gros, on parle de 3-4 autres équipes. Sinon, contre le reste, ils assument. Ils font pas de faux pas en général. Mais bon, c'est un peu le cas d'Arsenal aussi. Hein.
Ouais, cette saison, ouais.
Donc ça va lutter entre
Tottenham
et Arsenal.
Atlético, Barça, Séville, Real.
Ah, tu les vois, le Real.
Quatrième.
Même s'ils font, même sans neuf.
Ah là, tu donnes ton ordre en plus final.
Ah si, Mariano va revenir.
Ah oui, c'est vrai, Mariano revient.
Tu dis Atlético champion, là.
Atlético champion, Barça deuxième. Parce que je pense que le Barça va gagner la Ligue des Champions. Et de toute façon, c'est l'objectif numéro un. D'ailleurs, on voit très bien comment ils font tourner Messi, par exemple, remplaçant contre l'Athletic Bilbao à domicile, 3 jours avant le match à Tottenham à Wembley contre Tottenham. Donc, il y a une vraie décision du club de gagner la Ligue des Champions. Mais je pense que l'Atlético a les meilleurs effectifs pour gagner la Liga, que Séville, qui ne joue que l'Europa League, va être sur le podium et le Real, quatrième. Voilà.
Et ce serait trop facile, donc maintenant je veux que Jérôme et Daniel nous donnent les trois premiers de la Ligue 1.
De la Ligue 1.
Surtout le premier, c'est dur.
La Ligue 1, Paris, Lyon et Lille.
Daniel ?
Pareil.
Très bien. Karim est avec nous au 32-16. Salut Karim.
Bonjour la famille, comment ça va Fredo ?
Ah mais Karim !
Mon ami Karim !
Ça fait longtemps là.
Le plus grand supporter du Barça du monde.
Exactement.
Bah moi j'aimerais te parler d'un joueur, bon je vais parler d'un joueur de Liga, je sais pas si Fredo va donner des nouvelles, j'aimerais parler que David Lortou nous parle d'un joueur qui est élégant, classe à avoir joué sur un terrain et respire le football, c'est Kai Havertz.
Ah oui, mais alors là on n'est pas en Liga, on est en Bundesliga.
Non, je voulais pas parler d'un joueur de Liga, en fait, c'est ce que je voulais dire.
Ah, très bien. Eh ben, justement, c'est très bien que tu parles de ce joueur, parce que ça me donne...
Kai Havertz, du Bayer Leverkusen.
Ouais, ça me donne l'occasion très vite.
Cette année.
Ça me donne l'occasion très vite d'expliquer peut-être pourquoi le Bayer, là, a réussi 11 buts en 2 matchs à l'extérieur sur les 2 derniers matchs. 6-2, le premier match en championnat, et 5-0 contre Gladbach, cette semaine. Alors, les joueurs n'arrivent pas à l'expliquer, l'entraîneur non plus. Ils savaient pas pourquoi ça marchait
mais
pas.
Mais leur coup, oui.
Et oui, bah oui, parce que finalement, c'est assez limpide. Ils se sont mis à jouer le contre. Il est passé du 4-2-3 au 3-4-3 et ça fonctionne à merveille. Toutes les équipes, ça fait que deux, en fait. Mais c'était deux gros poids lourds de la Bundesliga. Et évidemment que Kai Havertz fait partie de ce panache offensif. Il y a 5 joueurs essentiels offensifs à Leverkusen et j'insiste, c'est de mon point de vue la meilleure attaque d'Allemagne. Il y a Kai Havertz en créateur, en meneur de jeu. Il y a Léon Bailey, le Jamaïcain. Il y a Kevin Folland en attaque. Il y a Julian Brandt, l'international allemand, à droite. Et j'oublie le cinquième. Mais peu importe, ça fait une attaque d'enfer. Et ce petit Kai Havertz, là, qui est encore loin d'avoir 20 ans, il doit avoir tout juste 19 ans. C'est vraiment un prodige qui va pouvoir vite arriver aussi en équipe nationale et dont on va apprécier les qualités à la fois de créateur, de joueur très adroit et aussi de finisseur.
Bravo, très bien.
Très bien. Quand tu t'appelles Kai, tu peux jouer qu'en Allemagne en même
Kai. Temps. Oui, K-A-I. Oui, c'est effectivement.
Kai Havertz. Messieurs, c'est fini. Juste une dernière info, deux petites infos. Rémi Garde, dont on a parlé à Rennes récemment, a dit aujourd'hui, je suis très bien à Montréal, je reste. Donc, voilà. Et puis, on a parlé de la finale Boca River en Ligue des Champions, enfin, en Copa Libertadores. En Ligue des Champions en Afrique, sachez qu'il y a un entraîneur français en finale. C'est Patrice Carteron.
Ah ouais,
qui est l'entraîneur du club égyptien de Al Ahly, qui est un des plus grands clubs africains, un meilleur palmarès, et qui va jouer contre l'Espérance de Tunis. La finale aller dans quelques jours, ce sera vendredi soir. Ce sera même demain, demain soir, la finale aller.
J'ai une chose à dire.
Oui, mais t'as 30 secondes.
Vite. Les vocabulaires très cani, c'est-à-dire vocabulaire plus important en Italie, dès la prochaine édition, on va voir un nouveau mot, qui est totilatrie. C'est l'idolâtrie des totis devient un mot officiel.
Il y a un mot dans le dictionnaire italien.
C'est joli, voilà. Ça.
C'est-à-dire l'adoration presque religieuse de Francesco Totti.
Incroyable.
Et qui sera applicable à d'autres choses.
Voilà.
Très bien, magnifique. Merci messieurs. Et à très vite, Simone.
Et la pour Fred Hermel, ça existe ou pas?
La Fred
Hermelatrie.
Non, par contre, il y a la Fredolatrie pour Fred. Ça, c'est dans le dictionnaire de l'after.
C'est pas la raclette, là.
Demain soir, l'after sera là dès la fin de PSG Lille. Bien sûr, ne ratez pas ça. Demain, tout sur RMC à partir de 16h avec le Super Moscato Show, bien sûr. Bonne nuit à tous.
Et Empoli Napoli aussi.
RMC Football Show, l'after foot.